Le train déraille avec la crise sanitaire. La SNCF a annoncé avoir subi une perte de 3 milliards d'euros, en particulier sur ses grandes lignes. Alors, pourquoi parler de grandes lignes alors que dans les Alpes du Sud, ce sont les petites lignes ferroviaires qui sont bien souvent à la traîne. Alors, peut-être que c'est le bout du tunnel pour l'étoile ferroviaire de Veynes qui pâtit de sous-investissement depuis de nombreuses années. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a signé avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SNCF cette semaine une convention pour soutenir les investissements sur les 435 km de petites lignes au niveau régional, et 177 millions d'euros seront fléchés jusqu'en 2032 sur l'étoile ferroviaire de Veynes. Alexandra Pourroy, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du collectif Mobile Hautes-Alpes. C'est une initiative parallèle en fait qui voit le jour aujourd'hui, puisque le concept est d'actionner la vitesse supérieure pour le train dans les Hautes-Alpes et permettre aux habitants d'aller au travail en train. Alors, quand je dis 177 millions d'euros seront débloqués pour l'étoile ferroviaire de Veynes, ça rebouscule les cartes par rapport à votre initiative première ?
Alors, je pense que tout d'abord, il faut saluer le travail du collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes, sans qui c'est pas évident que ces travaux auraient été débloqués, ce budget aurait été débloqué pour les travaux. Mais voilà, une fois qu'on a une infrastructure qui est rénovée et en super état, la question majeure à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec et qu'est-ce qu'on fait rouler dessus. Donc ce budget-là, il va garantir la pérennité de la voie, la pérennité de l'infrastructure. Mais la question, nous, qu'on veut vraiment soulever avec le collectif Mobile Hautes-Alpes, c'est comment on exploite cette infrastructure et comment aujourd'hui on fait des trains qui répondent aux besoins.
Alors, l'un de vos objectifs, et je le disais, c'est d'aller au travail en train. Là, vous avez beaucoup d'espoir.
Oui, on a beaucoup d'espoir. On pense que le contexte environnemental, d'une part, et les changements de mentalité font que la voiture va de plus en plus être mise de côté au profit du transport plus vertueux. Et on a la chance d'avoir cette infrastructure qui est en place dans le département. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser ? Faire rouler des trains sur le domicile travail, c'est vraiment aller dans le sens du progrès aussi pour l'avenir. Et puis, répondre aussi aux besoins sur le scolaire, parce qu'on en parle peu. Mais il y a beaucoup de bus qui desservent les établissements scolaires qui se trouvent le long de la ligne. Et demain, les étudiants pourraient aussi se rendre en cours en train.
En fait, vous proposez de développer la ligne des Alpes qui existe déjà, mais avec de nouveaux arrêts qui étaient fermés depuis. Vous proposez notamment de rouvrir des gares, la Roche des Arnauds, la Fraissier-Nouze, la Bâtie-Neuf, Savines-le-Lac. L'idée est louable pour certains, notamment les deux conseillers départementaux, Valérie Rossi et Joël Bonafou, qui avaient demandé il y a quelques années en arrière à ce qu'une gare rouvre du côté des Hautes-Alpes. Mais avant de rouvrir, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord consolider l'existant pour que le Haut-Alpin voit le train comme un vrai moyen de locomotion et non comme un moyen de secours quand sa voiture est en panne ou quand il y a trop de touristes sur les routes ?
Alors, la question est intéressante, mais pour que le Haut-Alpin voit le train comme un vrai moyen de transport, il faut que prendre le train devienne pratique. Donc, en effet, ça veut dire consolider l'existant, ça veut dire plus de trains à des horaires plus adaptés, mais ça veut aussi dire ne pas devoir prendre sa voiture pour aller jusqu'à la gare dans le village d'à côté ou à 10-15 km de la maison. Donc, l'intérêt de rouvrir ces petits arrêts, parce qu'on ne propose pas de réouvrir la gare en entière, mais seulement des haltes qui permettent au train de s'arrêter.
Donc, sans guichet, on est d'accord ?
Sans guichet dans un premier temps, tout à fait. L'intérêt de rouvrir ces arrêts de proximité dans les villages, c'est en fait de rendre les déplacements en train pratiques et que demain, ce soit aussi facile de prendre le train chez nous comme de prendre le métro à Paris, par exemple.
Selon vous, est-ce qu'à un moment, on n'a pas voulu, démolir quelque peu le ferroviaire dans les Hautes-Alpes quand on voit qu'il y a eu énormément de retard sur les rails, quand on voit qu'il y a eu des fermetures de guichets, de gares? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu une volonté de faire marche arrière ?
Oui, il y a eu clairement un sous-investissement, c'est facile de le constater. On voit aussi le nombre de bus aujourd'hui qui sont en doublon du train le long de la ligne. C'est des chiffres qui sont complètement hallucinants. Et en fait, c'est pour ça qu'on propose tout simplement d'arrêter de mettre en concurrence tous ces modes de transport. Le train a sa place, les bus ont leur place aussi, plutôt vers les vallées où on n'a pas la chance d'avoir une infrastructure ferroviaire. Et je pense que tout le monde peut y trouver son compte.
Vous avez des chiffres par rapport à ces bus qui arrivent en doublon des trains ?
On n'a pas de chiffres précis, on sait seulement que rien que pour le scolaire, aujourd'hui, les bus, c'est 170 lignes. Donc, c'est un chiffre qui est énorme, et sur certains trains, il y a plusieurs lignes. Donc, il y a vraiment des choses à faire pour rendre les choses plus vertueuses.
Alors, les cartes peuvent être redistribuées à partir du 31 mars prochain, puisque il faut revenir un petit peu en arrière. Le 24 décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités prévoyait une possibilité de transfert des compétences. On le sait aujourd'hui, la mobilité, c'est l'affaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais dès demain, les collectivités territoriales, notamment les communautés de communes, pourraient s'en saisir. Ça change la donne pour vous?
Ça va changer la donne, certes, en matière d'organisation. Mais outre la question politique, on estime que ça ne va pas changer la donne sur la nature du projet. C'est quelque chose qu'on a voulu vraiment construire autour de la réponse aux besoins et puis des enjeux environnementaux. Et donc, du coup, le projet pour nous restera le même.
Mais pour autant, est-ce que ça ne peut pas apporter une proximité dans la gestion du train? Très souvent, on entend dire, de la part des syndicats notamment, la gestion du train est beaucoup trop centralisée sur Marseille et complètement déconnectée des Alpes.
Si, tout à fait. Je pense que de toute façon, que ce soit la région ou les communautés de communes qui gardent la compétence, on a tout intérêt à ce qu'il y ait de la concertation et à que, finalement, peu importe l'autorité organisatrice, on prenne conscience des besoins et des enjeux au plus près du terrain pour avoir un produit aujourd'hui, une offre qui réponde à tous les enjeux d'un territoire.
Et vous pensez que les communautés de communes ont les épaules assez larges et solides pour pouvoir porter cette compétence et négocier avec la SNCF notamment?
Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Il ne faut pas oublier que sur les trains régionaux, la SNCF n'est qu'un exécutant. Donc, on verra bien ce que l'avenir nous dira.
Et vous êtes pour l'ouverture à la concurrence qui a été lancée à partir de 2016 par, en tout cas, l'ouverture à la concurrence a été lancée en 2016 par Christian Estrosi. Elle va se poursuivre?
Alors, moi, je vais vous répondre clairement. Je suis membre du collectif, mais je travaille également chez Orange. Et aujourd'hui, on voit chez cet opérateur les résultats de l'ouverture à la concurrence, notamment dans le déploiement de la fibre. Je pense que ouvrir à la concurrence, c'est compliqué dans un domaine où il y a un réseau aussi important et une infrastructure aussi importante que le ferroviaire, bah parce que c'est difficile d'articuler les acteurs entre eux. Et donc, voilà, les résultats sur les télécoms aujourd'hui, on les connaît tous et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très satisfaits de la manière dont ça fonctionne avec plusieurs opérateurs, alors que les choses devaient être plus faciles et moins chères. On en est loin.
Avoir une collectivité publique en arbitre de la gestion du ferroviaire, c'est mieux.
Mais probablement oui.
C'est un peu la double peine en ce moment pour le train dans les Hautes-Alpes parce qu'on le sait, il faut faire des travaux pour assurer la pérennité des lignes, mais en même temps, ces travaux vont couper le département de circulation ferroviaire. C'est un peu compliqué.
Oui, c'est une année un petit peu noire dans les Hautes-Alpes. En fait, il va y avoir des travaux sur peu ou prou une bonne partie des branches de l'étoile ferroviaire de Veynes. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est aussi l'occasion pour se rendre compte que le train, c'est un des piliers aussi de l'accessibilité à notre territoire et se poser les questions d'innover. Ce serait aussi pour nous une année excellente pour faire des travaux, par exemple, de réhabilitation des haltes, étant donné qu'il y a une circulation de train qui est moindre.
Mais vous faites quoi aussi de l'autre mobilité douce? On parle des cars, on parle des vélos aussi. Hein. Il y a quelques instants, vous le disiez, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence à la fois entre le train et entre les bus. Comment on organise tout cela?
Eh ben, le but, c'est dans notre projet en tout cas, c'est de se structurer autour du rail. Donc comme je disais, de redispatcher les bus vers les vallées et de proposer des infrastructures vélo qui permettent aux gens de se rendre à la gare en vélo, de se rendre chez leurs employeurs ou chez eux en vélo pour les petites distances et puis de sillonner le département aussi en vélo s'ils le souhaitent. Donc on sait qu'il y a une voie cyclable qui traverse les Alpes, qui arrive et qui est en projet, mais aujourd'hui elle répond beaucoup à des enjeux sportifs et on se rend compte que c'est pas suffisant et que de plus en plus les gens ont l'appétence pour ces moyens de transport, mais faut-il encore qu'ils aient l'opportunité de le faire dans de bonnes conditions.
Et alors, vous allez même plus loin, puisque vous voulez rouvrir une halte du côté de Savines-le-Lac, et en plus, peut-être mettre en place une navette bateau entre la gare, qui est d'un côté du pont, et la capitainerie de Savines, qui est de l'autre côté du pont.
Oui, n'importe qui prend la voiture en été dans les Hautes-Alpes du côté de Savines sait que le pont, aujourd'hui, c'est un véritable goulot d'étranglement. Donc l'idée, c'est de rendre Savines et puis ses plages accessibles, notamment depuis Gap, en train en une vingtaine de minutes. Et donc la solution miracle, ce serait de proposer des navettes lacustres qui font la traversée du lac entre la gare et la capitainerie de Savines, qui est toute neuve. Et il faut qu'on profite là aussi de cette infrastructure pour rendre le village accessible.
Votre projet, vous l'avez quantifié au niveau du coût? Parce que
Alors, on n'est pas
rouvrir
un cabinet.
toutes ces haltes, ça a quand même un prix.
On n'est pas un cabinet d'études, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier précisément. On sait aujourd'hui qu'il y a des projets similaires qui ont vu le jour, notamment sur l'agglo de Périgueux, qui a 10 000 habitants de moins que Gap, pour vous donner une échelle en termes de bassin de vie. Donc c'est un projet qui reste accessible. Les travaux, vu qu'on bénéficie de l'infrastructure, sont pas ahurissants. Et quand on compare aux budgets qui sont mis sur les routes et puis notamment ce qui a été signé là sur les travaux routiers avec Jean-Baptiste Djebbari, parce que vous avez parlé du train, mais il y a de l'argent qui a été déployé aussi sur les routes.
Sur la nationale 85, hein, pour la Soulz.
Tout à fait. Et ben on se rend compte qu'en fait c'est un projet qui reste accessible.
Qui vous soutient aujourd'hui? Est-ce que vous avez interpellé des politiques, et notamment la région Provence-Alpes-Côte d'Azur?
Alors aujourd'hui, on a commencé par les élus locaux parce que le but c'est de réouvrir des gares dans leurs communes et qu'on a aussi besoin de leur soutien. On a rencontré le maire de Serres, de Vennes, on a rencontré le maire de La Roche-des-Arnaud, le maire de La Bâtie-Neuve, le maire de Savines, qui sont tous très emballés par le projet. Certains nous ont même ouvert la porte de leur communauté de communes de manière à ce qu'on puisse faire vivre le projet plus largement. Mais on a également été à la rencontre de nos deux députés, de Jean-Marie Bernard au conseil départemental. Et puis la prochaine étape, c'est de rencontrer la région. Alors on a eu des petits contretemps avec la venue de Joël Giraud, mais c'est des choses qui sont dans les tuyaux et qui vont pas tarder d'arriver. Donc on espère pouvoir porter le projet le plus loin possible à travers les échelons.
Merci beaucoup Alexandra Pourroy d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je vous rappelle que vous faites partie du collectif Mobile Hautes-Alpes. Merci.
Merci.